C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, 1200 pages, voilà ce qu'il faut lire pour avoir une vision à peu près juste de l'état de l'océan qui recouvre les deux tiers de notre planète. Ce rapport d'évaluation publié par l'ONU à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan le 8 juin dernier compile une multitude de recherches scientifiques. Malheureusement, le constat est accablant. Du fond des abysses jusqu'aux littoraux, tout y est bousculé sous les effets conjugués du changement climatique et des activités humaines. Comme vous n'avez sûrement pas le temps de lire ce rapport, notre invitée va vous en faire la synthèse. En tout cas, elle en a la capacité. Et si vous vous apprêtez à éteindre la radio pour ne pas entendre ces mauvaises nouvelles, eh bien restez un peu. Nous vous en donnerons aussi des bonnes et nous irons à la rencontre des scientifiques qui participent à la 12e expédition de la goélette Tara. Nous irons au large des côtes chiliennes où ils scrutent le microbiome, ce peuple invisible de l'océan, et c'est fascinant. Soyez les bienvenus pour C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
Mais commençons tout d'abord par une actualité qui prend de l'ampleur. La demande croissante en ressources métalliques pousse l'industrie à se tourner vers un nouveau type de filon, découvert au XIXe siècle, mais jusqu'ici préservé, les ressources marines profondes. Bonjour Louisa Casson.
Bonjour.
Vous êtes chargée de campagne océan à Greenpeace Royaume-Uni. Vous faites partie des associations qui ont signé cette semaine un appel urgent aux pays membres de l'Autorité internationale des fonds marins pour qu'ils soutiennent un moratoire sur l'exploitation minière en eau profonde. Quel est l'objectif de cet appel ?
On se rend compte que les océans subissent une pression plus forte que jamais. On parle de la pollution plastique, le forage pétrolier, la surpêche, mais pourtant une nouvelle menace plane sur l'exploitation minière au notre mer. Et si les gouvernements, les États qui font partie de l'Autorité internationale de fonds marins, si on autorise l'exploitation minière en notre mer, des machines plus lourdes qu'une baleine bleue retourneraient les fonds marins, causant des dommages irréparables et à ces écosystèmes. On se rend compte qu'on vit actuellement dans une urgence écologique et donc il faut vraiment faire tout pour mettre fin à cette industrie destructrice avant qu'elle n'ait une chance de détruire les fonds marins. Préserver la faune et la flore qui vivent dans ces habitats vulnérables, mais que nous aussi. C'est très important qu'on ne doit pas laisser cette industrie nuisible perturber ces fragiles écosystèmes.
Et vous lancez cet appel maintenant parce qu'il y a une actualité du côté de Nauru, un tout petit état dans l'océan Pacifique qui se trouve au nord-est de l'Australie. Qu'est-ce qui se passe dans cet état de 12 000 habitants ?
Alors, ce pays a un partenariat avec une entreprise canadienne qui s'appelle Deep Green, mais qui vient de changer son nom vers The Metals Company. Et cette entreprise prétend qu'elle est prête à se lancer dans l'exploitation minière dans 2 ans. Et donc, il y a une sorte de décision imprudente et, à mon avis, très dangereuse, parce qu'en ce moment, on n'a pas de règles, on n'a pas de limites et on n'a pas de protection actuelle dans le fond marin, en haute mer. Mais avec cette décision, le pays de Nauru et cette entreprise, Deep Green, vient d'accélérer le processus de commencer l'exploitation minière en haute mer. Et donc, d'après Greenpeace, la seule chose responsable pour des gouvernements qui se considèrent et même se présentent comme des champions écologiques, des champions de protéger l'océan, c'est de mettre en place un moratoire sur l'exploitation minière. Il y a des scientifiques qui ont déjà averti des dommages irréparables. Et donc, la seule chose qu'on doit viser à maintenant, c'est d'avoir un moratoire international qui est déjà appelé par des autres îles pacifiques comme Vanuatu, comme Fidji, comme Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais aussi le Parlement européen a répété ses appels il y a quelques semaines pour un moratoire afin de protéger plutôt que l'exploiter les océans.
Alors en effet, 350 experts en sciences marines issus de 44 pays ont fait une déclaration dans laquelle ils précisent que l'exploitation minière en haute mer entraînera une perte de biodiversité et de fonctionnement des écosystèmes irréversibles pour des générations. Alors l'objet de convoitise de cette extraction minière, ce sont des concrétions rocheuses de 5 à 10 cm de diamètre qui renferment beaucoup d'hydroxyde de manganèse et de fer. Et il faut préciser que la formation d'une épaisseur d'un centimètre nécessite plusieurs millions d'années pour être fabriquée par la nature. Donc cela veut dire que nous, les humains, sommes prêts à piller les océans de ce que la nature a mis des millions d'années à fabriquer.
Oui, exactement. Quand on parle de l'exploitation minière, en haute mer, on parle des dommages irréparables. Cela serait désastreux, tant pour les incroyables espèces qui peuplent ces contrées sous-marines. Et les fonds marins regorgent de vie. Il abrite des anciens récifs coralliens, des espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et sur presque chaque expédition scientifique, les scientifiques découvrent des nouvelles espèces. Donc, c'est vraiment des écosystèmes fabuleux, mais aussi très vulnérables, comme vous avez dit. Mais ce n'est pas juste les impacts écologiques. Cela serait nocif aussi pour les communautés du Pacifique qui dépendent des océans pour survivre, comme pour la pêche, etc. Et aussi, il faut rappeler que le fond marin en haute mer a une statut légal très spécifique. C'est-à-dire, c'est le patrimoine commun de l'humanité. Et donc, c'est des questions primordiales.
Alors, ce dont nous parlons, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'atteindre des gisements situés dans les grands fonds marins de 1000 à plus de 6000 mètres de profondeur. Mais est-ce que c'est rentable? Parce que c'est très difficile à exploiter vu l'énorme pression qui règne dans les abysses.
Bien sûr, ça serait très difficile. Et en fait, on avoue, pendant ce printemps, il y avait une entreprise belge, qui a essayé de faire des essais avec un robot, une sorte de prototype. Et en fait, cette entreprise a perdu contrôle de son robot de 25 tonnes. Donc, ce robot a coincé à 4000 mètres sous la surface. Et donc, ça pose aussi des grandes questions sur la rentabilité, mais aussi les impacts écologiques, les questions d'équité aussi et de justice. Et donc, pour nous, la seule chose responsable pour des gouvernements, c'est de mettre en place un moratoire le plus vite possible, parce qu'on est maintenant dans une vraie situation d'urgence avec cette décision motivée par le profit, par cette compagnie canadienne.
Quels sont les délais? Quand est-ce que ce moratoire doit être voté, décidé?
Bien sûr, ce serait difficile de convaincre les gouvernements. On sait que les gouvernements européens, comme la France, la Belgique, l'Allemand, ils sont tous engagés actuellement soutenir cette industrie. Donc, il faut vraiment élever la pression par les médias, mais aussi par les militants, par les activistes, contre ces décisions, parce que je pense qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de nouvelles sur cette industrie. Mais quand on parle de l'idée de détruire des habitats vulnérables, fragiles, presque tout le monde se rend compte que ce n'est pas une bonne idée. C'est totalement l'inverse. Les engagements des gouvernements de protéger la biodiversité.
Et en même temps, vous voyez, nous réalisons cette interview grâce à nos ordinateurs. On utilise, nous aussi, des minéraux, finalement, au quotidien. Selon le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, l'extraction globale de minerais a été multipliée par 27 au cours du XXe siècle. Alors, comment est-ce que l'on peut stopper cette quête ?
Maintenant, les gouvernements, les entreprises prennent aujourd'hui des décisions qui détermineront quelles ressources seront nécessaires à l'avenir. Et en fait, rien ne prouve que l'exploitation minière en haute mer soit nécessaire pour assurer la transition écologique. En fait, récemment, les grandes marques engagées dans la transition écologique, comme les fabricants des batteries, les fabricants de véhicules électriques, c'est des marques comme Google, Samsung, BMW, Volvo. En fait, ils se sont engagés à ne pas utiliser les métaux issus de l'océan à cause de le risque de réputation de ce marque. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça montre qu'en fait, qu'ils doivent prendre au sérieux l'urgence d'utiliser les ressources de manière plus efficace, de transformer les systèmes de transport et de s'orienter vers les économies plus durables et plus circulaires. Nous pouvons en fait passer du système actuel basé sur le tout jetable vers un système qui minimise les déchets en réutilisant et en recyclant les métaux présents dans les appareils. Ils font remarquer aussi que les déchets électroniques sont aujourd'hui le type de déchets qui connaît la plus forte croissance. Donc, il faut vraiment prendre les choix durables plutôt que suivre le greenwashing et ces efforts comme ça de ces entreprises engagées dans l'exploitation minière en haute mer.
Il faut donc plutôt investir dans l'innovation, dans le recyclage, plutôt que dans l'exploitation des grands fonds marins. Merci Louisa Casson.
Merci beaucoup.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr. Stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms. Star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. Meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go
Petit retour dans les années 60 avec Bobby Darin, Beyond the Sea, dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des réactions? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
Nous parlons de l'océan aujourd'hui qui recouvre les deux tiers de notre planète, mais que nous avons si longtemps méprisé. Heureusement, notre regard commence à changer. Bonjour Aurélie Spadone.
Bonjour Anne-Cécile Bras.
Vous êtes chargée de mission au programme global milieu marin et polaire de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter ce qu'est l'UICN ?
Bien sûr. Alors l'UICN, c'est une organisation intergouvernementale qui s'appuie sur la science. Son siège est basé en Suisse, donc, et l'UICN a été fondée en 1948. L'UICN a des bureaux dans plus de 50 pays, dans toutes les régions du monde, en Afrique de l'Est et du Sud, en Afrique centrale et occidentale, en Asie, en Amérique du Sud.
Et vous, vous travaillez au programme global milieu marin et polaire du LUCN. C'est quoi ce programme ?
Alors, ce programme, on s'intéresse à la conservation, à l'utilisation durable des ressources marines. Donc, notre rôle va être d'influencer les sociétés pour arriver à une meilleure conservation des milieux marins. On va faciliter le dialogue entre les différentes parties prenantes. Et puis aussi, le programme global milieu et marin est aussi un pont entre les scientifiques qui étudient l'océan et les décideurs politiques.
Alors l'océan fascine et fait peur à la fois, hein, ça dépend déjà si on sait nager ou pas, mais c'est surtout son immensité qui est captivante et les rôles essentiels qu'il joue dans notre écosystème. Il produit par exemple l'essentiel de l'oxygène que nous respirons et on le sait souvent peu, voire pas.
Oui, l'océan joue un rôle absolument essentiel dans la régulation du climat. On sait que l'océan a absorbé 93% de l'excès de chaleur depuis les années 70. Et il continue à absorber 26% du CO2 qui est émis par les activités humaines dans l'atmosphère chaque année. On sait aussi que l'océan fournit 70% de l'oxygène qui se retrouve dans l'atmosphère et qui est essentiel à toute vie sur Terre. Mais l'océan joue aussi un rôle dans plein d'autres domaines. Ça représente 97% de l'eau liquide sur la planète. C'est la première source de protéines pour 3 personnes sur 7 sur la planète. C'est très important en termes de santé humaine aussi. Beaucoup de médicaments sont issus de la recherche sur les organismes marins. Et c'est la source principale de revenus pour une grande partie de la population mondiale et des communautés côtières. On peut dire aussi que 90% des transports des biens et de marchandises se font par voie maritime. On se repose beaucoup sur l'océan pour une grande part des activités humaines et pour notre survie sur cette planète.
Alors finalement, on le connaît assez mal, hein, cet océan, parce que ben voilà, il fallait pouvoir développer des technologies capables d'aller l'explorer. Et en fait, c'est assez récent, ça fait quoi, une trentaine d'années qu'on dispose vraiment d'outils pour aller explorer cet océan ?
Oui, alors exactement. Donc l'océan a toujours fait peur et puis était très éloigné, donc a vraiment représenté une part d'inconnu et de mystère depuis la nuit des temps. Et puis maintenant, on dispose d'outils comme les satellites qui observent la surface de la Terre. Mais par contre, il y a encore énormément de zones qui sont complètement inconnues, et notamment dans les grandes profondeurs. On estime que seulement 10% de la surface des fonds marins a été cartographiée en détail. Et puis, si je peux donner un exemple, les monts sous-marins, donc les monts sous-marins sont des montagnes du plancher océanique de plus de 1000 mètres. On estime qu'il y en a 100 000 sur la planète et seulement quelques centaines d'entre eux ont été explorés. Donc il y a vraiment un grand nombre d'espèces et d'écosystèmes qui sont totalement inconnus à l'être humain.
Et donc ces satellites, ils servent à quoi ?
Donc grâce aux satellites, on peut observer donc la surface. On va avoir des informations sur l'élévation du niveau de la mer et donc sur les courants régis par les différences de température et de salinité. Et donc on peut avoir cette information sur l'élévation du niveau de la mer grâce aux satellites. On peut aussi avoir une bonne représentation du contenu en phytoplancton grâce aux pigments photosynthétiques qui sont contenus dans le phytoplancton. Et donc cette information sur la composition et la présence, l'abondance de phytoplancton va pouvoir être interprétée par les scientifiques à la base des données du satellite.
Et la mobilisation scientifique s'organise globalement pour justement aller explorer cet océan.
Oui, on peut parler ici d'un grand effort international par l'Organisation des Nations Unies qui a lancé la décennie pour les sciences océaniques en faveur du développement durable. Donc ça a commencé cette année, en 2021, et ça va continuer jusqu'en 2030. Et c'est vraiment pour faciliter la mise en œuvre de grands programmes de recherche sur les sciences océaniques et l'océan.
Alors par exemple, qu'est-ce qu'on va étudier en priorité durant ces 10 années qui viennent ?
L'état des habitats, les changements dans la répartition des espèces dues au changement climatique. Et il faut absolument bien connaître et l'habitat et les espèces et ce qui va les faire migrer, c'est-à-dire se déplacer dans l'océan, pour pouvoir assurer leur protection. Parce que les mesures qu'on va mettre en place, comme par exemple des aires marines protégées, vont nécessiter toutes ces informations.
Alors, selon le rapport d'évaluation mondiale de l'océan publié par l'ONU, que je mentionnais en introduction, il existe près de 1000 bateaux scientifiques qui sillonnent l'océan pour mieux le découvrir. La goélette Tara et ses 36 mètres de long en font partie. Avec 14 marins et 6 scientifiques à bord, elle réalise sa 12e expédition. Partie de France mi-décembre, l'équipage va explorer pendant 2 ans le fonctionnement des micro-organismes marins au large des côtes de l'Amérique du Sud, des icebergs de l'Atlantique Sud et de la côte ouest africaine. Alice Roy a rejoint l'expédition au large des côtes chiliennes.
Dans un quart d'heure, on va démarrer les moteurs. Là, on prépare le bateau à la manœuvre, c'est-à-dire qu'on a dédoublé tout l'amarrage, on a mis le semi-rigide à l'eau qui va nous aider à quitter cette place à quai. Voilà, on est en train de valider que tout est en place. Moi, je suis en train de démarrer tous les instruments de navigation. On se met en route pour Iquique, là, pour 15 jours de mer. Je m'appelle Samuel Audrin, je suis capitaine du navire Tara. Et sur cette mission, j'ai embarqué du côté de Puerto Montt. Et comme chaque marin, en fait, on se relaie tous les 3 mois tout au long de la mission. On est sur les côtes du Chili, on est en train de remonter les côtes chiliennes. On est sur le dernier leg chilien. Tara, c'est un bateau océanographique particulier. C'est un grand voilier, c'est sûr, hein, un navire de 36 mètres, une goélette à 2 mâts, de même hauteur. Et sa spécificité, finalement, c'est sa forme de coque. Il a été conçu pour avoir cette possibilité de dériver dans les glaces arctiques, donc des glaces qui sont en mouvement. Un bateau qui fait 140 tonnes, donc c'est, voilà, c'est un grand voilier, mais finalement c'est un petit bateau de travail. Et c'est ça qui nous permet finalement de partir loin et longtemps. Parce que voilà, un bateau océanographique qui s'inscrit sur une même thématique pendant 2 ans non-stop, c'est très rare. Et c'est ce qu'on fait par exemple sur cette mission Tara Microbiome. Alors nous, on s'est spécialisé dans la pêche au plancton. On travaille sur le microbiome sur cette mission. Donc on s'intéresse au plancton et on essaie de comprendre les interactions entre les différentes familles de plancton et les interactions entre le plancton et son milieu.
Non, je pense pas, mais est-ce que tu m'en sois ?
On est 14 personnes, il y a 6 marins qui sont là pour faire marcher le navire en sécurité et puis pouvoir aller là où on souhaite collecter. Et il y a aussi une équipe de scientifiques à bord qui est là pour collecter les échantillons, les stocker comme il faut à bord pour ensuite les envoyer vers les différents laboratoires. Sur Tara, on a été obligé d'adapter des espaces. Dans le carré de vie, il y a un endroit pour manger, il y a un endroit pour faire la cuisine, un endroit où quand on ne mange pas, on déploie les ordinateurs pour travailler, il y a un petit bureau pour un scientifique dans une des bibliothèques. Voilà, vraiment, le bateau n'est pas très grand, donc on partage les espaces. Avec le temps, on a développé 3 espaces dédiés à la science. Donc il y a ce qu'on appelle le wet lab, donc le laboratoire humide à l'extérieur, ce qui nous permet de traiter les échantillons dès qu'ils sortent de l'eau. Il y a le sorting lab, donc qui permet de faire d'autres filtration et d'autres analyses à l'intérieur du bateau. Et il y a aussi l'Underwell Lab qui est à l'intérieur du bateau et qui permet là de faire de la collecte de données en continu tout au long de la mission. Notamment les mesures physico-chimiques de base comme la température, la salinité, l'oxygène, etc.
Vous me racontez tout ça sous les voiles qui ont été hissées au soleil couchant. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cette mission ?
C'est cette richesse au niveau humain. On est 14 personnes d'horizons vraiment différentes. Hein, parce que voilà, en ce moment, on a un artiste, on a un journaliste, on a une équipe de scientifiques de différentes nationalités, on a une équipe de marins, mécaniciens, second capitaine, cuisiniers, etc. En fait, il y a beaucoup de diversité dans l'équipage et forcément c'est riche au niveau humain. Il y a quand même encore de l'aventure dans ce genre de mission, dans le sens où voilà, on part d'un endroit, d'un point A à un point B, on connaît rarement la route parce que on va partout autour du monde, donc on ne connaît pas tout le monde, bien évidemment. Donc on découvre des régions. Là, la météo a fait qu'on a pu s'arrêter sur un petit mouillage pendant 24 heures juste en face du désert d'Atacama. Voilà, donc ça c'est super. En fait, on organise la mission en fonction de ce qui est le plus judicieux. On part à l'aventure pour faire avancer la connaissance, pour la partager. Voilà, c'est un projet très complet. Tout le monde travaille main dans la main. Donc les scientifiques travaillent avec les marins et vice-versa. Là, on vient d'envoyer les voiles. Et ben, les scientifiques étaient à la manœuvre. Quand demain, on sera en station de collecte d'échantillons, les marins seront avec les scientifiques pour collecter les échantillons.
Et voilà. C'est tout beau. Je vais, du coup, je vais tourner un petit coup. Alors là, on arrive à la station. C'est un endroit précis qui a été déterminé par les scientifiques. Et c'est là où on va commencer les mises à l'eau, en fait. Voilà. Pendant la nuit, on a fait route pour arriver à ce point à une heure bien précise. Là, il est bientôt 7 heures. On va faire la première mise à l'eau à 7 heures.
Qualité, on est à 480 mètres de câble.
Moi, je suis à 460. Et les premières bouteilles, elles s'ouvriront à 500. Et après, c'est 300, 150, 120, 80, enfin, ainsi de suite, je dirais.
Ok.
C'est un site dans l'océan qui nous intéresse particulièrement parce que sous l'eau, il y a une morphologie particulière, par exemple un canyon sous-marin, ou alors on est proche d'un glacier qui se jette dans la mer et du coup, ça crée une zone intéressante. Faire des stations dans différents écosystèmes à différentes zones, ça nous permet d'étudier différents microbiomes et comment chacun est adapté à cet environnement particulier. Au Chili, on a aussi étudié des zones d'upwelling, qui sont des remontées d'eau profonde. C'est un phénomène très intéressant en océanographie parce que ce phénomène-là, il enrichit les couches de surface en nutriments et en CO2 également. Voilà, une station marine, on l'a choisie en fonction de paramètres qui nous paraissent intéressants pour ce qu'on veut étudier. En l'occurrence, là, on veut étudier le microbiome, donc tous les micro-organismes qui sont présents dans l'océan et leur environnement auquel ils sont associés. Je m'appelle Douglas Coet, j'ai 30 ans et je suis biologiste marin.
On vient d'immerger la rosette. Voilà. Ok, bah c'est parti pour 2 minutes.
C'est remonté à 19,6, 19,4, 18,7. Voilà, ça dépasse les 20 mètres là, c'est stable. 21.
C'est une zone de pooling. Et donc on voit en plus qu'aujourd'hui, depuis hier, avant-hier, on a du vent du sud qui souffle. Et ce vent-là crée les conditions pour faire un pooling. Sur Tara, on est vraiment tous spécialisés dans le prélèvement, autant les scientifiques que les marins d'ailleurs, parce qu'ils participent autant que nous pour déployer les filets ou la rosette qui est notre préleveur d'eau de mer dans des bouteilles.
Vous me parlez depuis un petit laboratoire qui est sur le pont du navire. Comment est-ce qu'on fait de la science sur un bateau, un voilier en l'occurrence de 36 mètres de long?
On s'adapte déjà, c'est la clé. Tara n'a pas du tout été conçue pour faire des grandes campagnes océanographiques. Et donc c'est un challenge pour faire de la science à bord parce que l'espace est restreint. Donc c'est un super voilier d'exploration, mais il est limité en taille. 36 mètres de long, c'est pas beaucoup pour faire autant de science à bord. Et donc là, on est dans le Wet Lab, qui est une sorte de petit conteneur aménagé qui a été rajouté sur le pont arrière du bateau. Il fait quoi, 3 mètres de long pour 2 mètres de large. Mais à l'intérieur, on a plein d'instruments, plein d'outils. Et donc au final, moi, l'espace que j'ai pour travailler, c'est peut-être 1 mètre carré ou 2 mètres carrés. Mais bon, il n'est pas que pour moi, il est aussi pour mes collègues.
Qu'il faut d'ailleurs laisser passer.
Donc là, il y a Emilio qui rentre pour faire des filtrations. Moi, j'ai un autre banc de filtration juste à côté, avec 5 à 10 gros bidons au sol ou rangés sur des paillasses. Voilà, c'est une optimisation pour gagner de l'espace à chaque endroit qu'on peut, quoi.
Alors, ces bidons, ils contiennent de l'eau de mer?
Voilà, ces bidons, ils nous servent à collecter l'eau de mer qui vient de différentes profondeurs, différentes strates dans l'océan. On va la filtrer dans des filtres de toute petite taille, toute petite porosité, pour capturer les micro-organismes qui nous intéressent. Donc par exemple, je vais filtrer à 3 micromètres pour capturer les organismes qui sont plus gros que ça. Et on va ensuite descendre encore plus bas, puisqu'on va descendre à 0,2 micromètres. Et derrière, on récupère encore l'eau qui passe à travers pour étudier les virus qui sont dedans. Donc on échantillonne toute une classe de taille du microbiome qui va des virus jusqu'aux bactéries, et ensuite aux cellules de phytoplancton et aussi de zooplancton un peu plus gros, mais qui restent sur des tailles assez petites.
Pourquoi on s'intéresse au plancton et à ces micro-organismes invisibles?
C'est une bonne question parce qu'on ne le voit pas, donc ce serait facile de croire qu'il n'a aucun impact, aucun intérêt pour le vivant sur Terre ou pour les sociétés humaines. Mais par exemple, ce microbiome-là, il est à la base de la chaîne alimentaire. Donc c'est lui qui commence à créer la nourriture pour les poissons, par exemple. Donc sans microbiome, il n'y a pas de poisson. Tout l'écosystème marin est basé sur l'existence du microbiome et du phytoplancton. De sa présence va découler toute une suite d'événements et de relations entre les espèces. Mais également, le microbiome fait beaucoup de chimie dans l'eau, puisque par exemple, il fait de la photosynthèse. Et par cette action de photosynthèse, il va jouer sur la quantité de gaz carbonique dans l'eau et également d'oxygène. Et donc le microbiome qui fait de la photosynthèse, il va avoir un énorme impact sur la quantité de dioxyde de carbone qui est pompé par l'océan et la quantité d'oxygène qui est rejetée par les océans. Le microbiome produit 50% de l'oxygène sur Terre. Donc que tu habites à Brest ou à Strasbourg, tu respires cet oxygène qui est produit par le microbiome océanique.
En l'étudiant en ce moment sur la goélette Tara, qu'est-ce qu'on recherche ?
Qui compose le microbiome dans plein d'écosystèmes différents ? Donc là, rien qu'au Chili, on aurait étudié jusqu'à 4000 km de côte avec autant d'écosystèmes très différents les uns des autres, puisqu'on a été en Patagonie, on a été dans des canyons sous-marins, on a été dans des zones minimum d'oxygène ou même dans des outpoolings. On essayait d'étudier des écosystèmes différents pour avoir une image un peu de la diversité des microbiomes sur la côte chilienne, qui est une zone très importante pour les pêcheries, mais aussi pour le cycle du CO2 sur Terre, le cycle du carbone. On prélève l'eau de mer, ou alors on prélève les organismes à l'aide des filets, et ensuite on va les conditionner sous différentes formes, sur des filtres, dans des tubes, dans des flacons. Et ensuite, tous ces échantillons, ils partent dans les laboratoires partenaires, ça peut être au Chili ou alors dans le monde entier, en France, en Europe, aux États-Unis, etc.
Nous sommes aujourd'hui au port de Valparaiso, au Chili. Que se passe-t-il ce matin ?
Ce matin, c'est shipping d'échantillons, c'est-à-dire qu'il y a des échantillons qui vont partir dans les laboratoires chiliens et des échantillons qui partent à l'étranger, au Génoscope et aux États-Unis. Donc il faut les conditionner et les expédier le plus rapidement possible. Je suis Camila Fernandez, chercheure au CNRS à Banyuls-sur-Mer. Je suis aussi prof visitant de l'Université de Concepción parce que je pilote un laboratoire international associé. Et c'est à cause de ça que je suis rentrée dans le projet CO2 Tara. Et je coordine ce projet au niveau national avec Alejandro Mas. C'est le programme CO2, c'est la composante chilienne de Tara Microbiome. Pendant la campagne, on a collecté différents types d'échantillons, des filtres, des échantillons d'eau, des échantillons de zooplancton et autres, qui sont conditionnés à différentes températures. Il y en a qui sont à température ambiante, et là, il n'y a pas de problème. Et il y en a qui sont au frais, à 4 degrés, à moins 20 degrés, et il y en a qui sont dans l'azote liquide. Donc chaque température a ses besoins et ses limitations pour expédier. Et donc, il ne faut pas qu'il décongèle en route. Et il ne faut pas qu'il réchauffe trop non plus en route. Il faut être bien attentionné avec nos petits échantillons précieux qu'on a collectés pendant tout ce temps. Et là, c'est le bilan des 3 premiers legs de la campagne qui vont partir. Et il y a environ 3000 échantillons en tout qu'on doit expédier aujourd'hui. C'est un peu la course et on est en train d'attendre la compagnie qui s'occupe de l'expédition des échantillons et ils vont apporter de la carboglace qui va remplacer l'azote liquide et ils vont apporter des boîtes conditionnées spéciales où on va mettre nos petits échantillons et on va bien étiqueter, peser et envoyer. Ça y est, ils arrivent. Bah, avec un peu de retard, mais ils arrivent.
L'équipe de scientifiques est en train de porter les caisses qui vont partir à l'envoi à l'international.
Hop ! On the go !
C'est lourd ?
Bah là, il y en avait pour 140 kg environ. Voilà, réparti sur 5 boîtes différentes.
Dit-il en faisant ça avec son bicep, tu vois ?
Non, tiens, en me massant les épaules.
Voilà. Là, il y en avait pour 140 kg.
Il en reste beaucoup ?
Ah bah il en reste beaucoup mais ce sera pas aussi lourd. La plupart des choses en fait sont conservées dans des petits tubes. Du coup en quantité il en reste beaucoup. Ouais. On en a peut-être 3500 à faire aujourd'hui. On a commencé par tout ce qui est à température ambiante. Donc on a 5 grosses caisses, ça fait un total là de 140 kg environ. Voilà, on fait les choses doucement en fait et par étapes. On a des échantillons d'eau de mer pour mesurer la salinité. On a des échantillons de plancton pour étudier leur morphologie, leur diversité. On a aussi des échantillons d'eau de mer pour mesurer le mercure.
Et ça représente quoi pour vous cet envoi ?
C'est un moment sensible pour les échantillons parce qu'on les sort de leur zone de confort pour les mettre dans un transport Voilà, ça va être un camion pendant 1h30-2h, ils passent des checkpoints, après c'est l'arrivée à un entrepôt, ils vont rester plusieurs jours, ensuite ça doit aller dans l'avion, ensuite ça arrive à Paris, etc. Donc c'est un moment important parce que pour nous c'est les 3 mois de boulot, donc c'est un moment assez important quoi. Faut que ça se passe bien. Ouais. Et vous là, c'est fini là?
Ouais.
C'est rempli de carboglace aussi?
Ouais.
Ok. Entre le bateau Tara et leur camion, il y a un bateau militaire. Voilà, donc faut qu'on passe tous, faut que tous nos échantillons passent sur le bateau militaire avant d'arriver sur le quai. Et puis il y a un bel espace entre le quai et le bateau militaire. Mais bon, on a la chance parce qu'ils nous aident, les militaires là, ils font une chaîne avec nous, ils nous aident à passer les échantillons, donc c'est plutôt sympa et c'est un coup de main bienvenu aussi pour faire tout ça. Voilà, de se dire qu'on a l'armée chilienne pour nous aider à transférer les échantillons, c'est quand même cool.
Et donc on a fait cet envoi dans le port de Valparaíso, le port bruyant et actif du pays.
Oui, c'est le premier port du pays en fait. C'est vrai que ça a été étonnamment simple pour faire partir les échantillons. Je m'attendais à beaucoup plus de papiers, de choses à faire. Donc les échantillons vont partir à Paris au Génoscope en priorité et de là elles vont être distribuées aux différents laboratoires aux États-Unis. En Europe et en Angleterre aussi. C'est un peu la boucle qui se boucle, c'est la fin d'une étape. Et puis ça fait aussi du bien de savoir qu'elles sont en sécurité et que rien ne peut leur arriver. Tu vois, elles vont faire le trajet en sécurité, et ça c'est bien.
Et ces résultats, ils vont nous servir à quoi?
Les résultats de ces échantillons vont donner le contexte océanographique au travail de séquençage que le Génoscope va faire. Et nous, on fournit le contexte chimique, physique, biologique, physiologique qui va permettre de mettre en contexte les résultats et comprendre ce qu'on a observé. Les gens ont tout donné pour que les échantillons partent dans les meilleures conditions possibles. On a tous fait un effort et puis ça s'est bien fini, c'est chouette, c'est bien. We'll be right back.
La bonne humeur des Beach Boys, Sail and Sailor dans C'est pas du vent sur RFI. C'est Alice Roy qui nous a emmenés à bord de Tara avec ce reportage. Actuellement, la goélette Tara et son équipage poursuivent leur expédition dans la mer des Caraïbes. Vous pouvez les suivre sur le site microbiome.fondationtara.org et vous trouverez sur ce site plein d'outils pédagogiques pour mieux comprendre justement le rôle des micro-organismes dans l'océan. Aurélie Spadone, je rappelle que vous êtes chargée de mission au programme global Milieu marin et polaire de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Comment réagissez-vous à ce reportage ?
Alors en fait, ça me rappelle plein de choses. Ça me remet en tête des bons souvenirs des expéditions en mer auxquelles j'ai eu la chance de participer. C'est une ambiance de travail incroyable et on l'entend bien dans votre reportage avec tous les petits bruits du bateau et tout ça. Donc, c'est, je pense, avant tout une expérience humaine unique pour un scientifique passionné d'océan comme beaucoup.
Comme vous, notamment. Alors vous avez eu la chance d'aller dans l'Antarctique. En quelques mots, c'est comment l'Antarctique ?
Magnifique et grand. J'ai vraiment eu la chance d'aller une fois dans le passage de Drake et une fois sur les côtes d'Antarctique. J'ai pu aussi marcher sur le continent pour rejoindre la station de recherche Neumayer 2, la station allemande, juste pour quelques heures. Mais c'était vraiment, vraiment incroyable. La science, elle prend toutes les opportunités, j'ai envie de dire, surtout la science qui va dans des zones inaccessibles. Et toutes les sciences océaniques, c'est vraiment la difficulté, c'est le coût de la recherche et d'arriver pour aller sur place et faire des observations.
Et c'est important d'observer cet océan parce qu'on a quand même tendance à le maltraiter. Par exemple, en avril dernier, le gouvernement japonais a décidé de rejeter dans l'océan Pacifique l'eau contaminée par le refroidissement des réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi au moment du séisme et du tsunami qui a eu lieu en mars 2011. C'est un exemple parmi d'autres qui démontre que l'océan nous sert souvent et depuis longtemps de poubelle.
Exactement, et vous avez raison, cet océan, il est menacé. Et la pollution, c'est une des menaces qui planent sur l'océan et sur la santé de l'océan. Et puis que ce soit nos déchets, donc de pollution plastique, qui se retrouvent sous la forme de microplastiques qu'on a retrouvés à des profondeurs de moins 12 000 mètres sous la surface de la mer. Et puis aussi de la pollution chimique, comme vous venez de l'évoquer. Et ça va même jusqu'au bruit sous-marin, parce que les activités humaines qui se passent dans l'océan génèrent un bruit qui perturbe largement la faune, et notamment les grands mammifères marins comme les baleines. Donc c'est aussi une source de pollution à laquelle on ne pense pas forcément, mais sur laquelle l'UICN et le programme global Milieu marin et polaire travaillent en ce moment. Et puis, dans les menaces qui pèsent sur l'océan, il y a bien sûr le changement climatique, avec trois aspects, donc le réchauffement climatique, donc l'augmentation de la température, la désoxygénation qui en découle, c'est-à-dire qu'il y a moins d'oxygène dans l'eau de mer, avec les conséquences qu'on peut imaginer sur la vie qui s'y trouve, sur les poissons et sur les algues.
Il y a même des zones où il n'y a plus d'oxygène du tout.
Exactement, il y a des zones qui sont complètement privées d'oxygène. Et donc là, c'est carrément des déserts. Et puis, le troisième pendant, c'est l'acidification des océans. Parce qu'il y a plus de CO2 qui est absorbé par l'océan. Et dans le cycle du carbone, l'eau devient plus acide. Et ça a des conséquences très importantes sur les organismes, par exemple, qui ont une coquille en calcaire. La coquille en calcaire va se dissoudre parce que les conditions d'acidité des eaux de l'océan n'est plus suffisante pour maintenir le calcaire sous sa forme solide.
Et les populations qui habitent dans cet océan, vous l'évoquiez tout à l'heure, les populations de poissons, par exemple, ont tendance à se déplacer pour toujours rester finalement dans des températures qui leur conviennent pour survivre. Et du coup, nous, on continue à les pêcher, mais il y a des endroits où on ne les trouve plus parce qu'elles ont changé et elles sont montées ou elles sont descendues, soit montées vers le nord pour aller chercher plus de fraîcheur, soit descendues vers l'équateur pour chercher plus de chaleur. Et donc, du coup, elles se déplacent et ça, c'est peut-être une bonne solution, malgré nous, pour lutter contre la surpêche, non ?
L'histoire a montré que les pêcheurs vont suivre et se déplacer au même rythme que les poissons et les stocks de poissons. Et malheureusement, je crains que ça ne suffise pas. On est en train de vraiment décimer ces stocks et de ne pas avoir une utilisation qui va être durable de ces ressources. Ça va poser des problèmes de sécurité alimentaire dans le futur, c'est certain.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons de l'océan aujourd'hui avec vous Aurélie Spadone. Je rappelle que vous êtes chargée de mission au programme global milieu marin et polaire de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et l'UICN qui va donc tenir son congrès mondial en septembre, du 3 au 11 septembre à Marseille, dans le sud de la France. C'est un rendez-vous extrêmement important pour la biodiversité.
Oui, exactement. Donc ce congrès mondial de la nature de l'UICN, ça va être le premier événement mondial sur l'environnement depuis le début de la pandémie. Ça va être aussi un rendez-vous qui va précéder les conférences des Nations Unies qui sont très attendues sur la biodiversité, la CBD, et la conférence sur le climat à Glasgow. Et ce congrès mondial de la nature de l'UICN va être une étape clé pour préparer ces conférences. Et puis c'est aussi le seul forum qui réunit des gouvernements et des agences non gouvernementales, des organisations et des associations de plus de 160 pays. Donc ça en fait une plateforme vraiment privilégiée pour un échange et pour rassembler les voix et les priorités de ces différents pays.
Donc l'océan sera à l'honneur de ce congrès mondial de l'UICN qui se déroulera à Marseille du 3 au 11 septembre. Et ce sera, vous le disiez, un des 7 thèmes qui seront abordés, sachant que donc l'UICN, comme vous l'évoquiez, c'est finalement le plus grand rassemblement, c'est la plus grosse ONG mondiale finalement. Donc du coup, il y aura tout le monde de la biodiversité qui sera réuni, soit en virtuel, soit en présentiel, comme on dit maintenant avec notre nouveau vocabulaire. Nous y serons évidemment, l'équipe de C'est pas du vent. On espère vous voir, Aurélie Spadone, là-bas.
Ah ben, avec plaisir, donc je serai certainement auprès du pavillon Océan et Îles et on aura aussi les experts de Tara qui seront invités sur certains de nos événements techniques au pavillon pour parler de tous ces sujets et puis faire le lien avec nos projets comme Mapmaker qui est un outil de visualisation à l'intention des décideurs politiques pour voir les changements sur le phytoplancton, c'est-à-dire que par exemple, si on suit l'accord de Paris, qu'est-ce que ça va donner pour le phytoplancton? Si on continue notre business as usual, qu'est-ce que ça va donner en termes de diversité planctonique dans telle ou telle région du monde, quoi. On essaye, l'UICN essaye d'apporter ça aux décideurs politiques pour prendre des décisions qui vont dans la bonne direction.
Voilà, et nous relayerons tout ça auprès de nos auditeurs. Merci beaucoup Aurélie Spadone d'avoir participé à cette émission.
Merci beaucoup Anne-Cécile Bras.
Et vous trouverez toutes les informations sur le congrès mondial de l'UICN sur la page internet de l'émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous écrire par mail, c'estpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous réécouter ou partager les podcasts de l'émission sur vos applications préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure.
« 7 milliards de voisins. »